Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes donc sur Radio Zinzinex et vous écoutez Mare Nostrum, préparé, présenté par Raymond avec Fabrice à la technique. Alors aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier parce que aujourd'hui l'émission fête son 50e numéro. Voilà, donc la prochaine fête ce sera pour le 100e numéro. Et cette émission, ce 50e numéro va être consacré à la migration d'une communauté de pieds noirs qui s'est installée donc à Alicante au début des années 60, au moment de l'indépendance de l'Algérie. Donc pour en parler, je reçois donc Mariana Dominguez Villaverde. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes chercheur associé au laboratoire TELEM de la Maison méditerranéenne de sciences de l'homme à Aix-Marseille Université. Nous sommes bien sûr partenaires avec ce regroupement de laboratoires. Vous êtes vous-même migrante. C'est intéressant d'avoir travaillé oui. sur les migrations, puisque vous êtes née en Argentine. Vous êtes venue vous installer en Espagne. Et après, vous avez fait vos études entre l'Espagne et le sud de la France. C'est-à-dire que déjà, vous êtes beaucoup, beaucoup promené. Et finalement, donc, vous êtes maintenant à peu près installé donc, dans le sud de la France. Vous êtes docteur en histoire contemporaine et vous travaillez sur les migrations. D'où cette thématique qui fait l'objet de votre thèse. Et vous aviez travaillé avant sur les migrations espagnoles en Argentine, je crois. C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Voilà. Très bien. Alors donc, les pieds noirs d'Alicante, qui se sont installés à Alicante et dans sa région, donc il va être question de migration, d'exil. Et donc, est-ce que vous pouvez, on va commencer par ça, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce thème ?
Oui, bien sûr. Et bon, les sujets de ma thèse, qui s'intitule « Serie Star, les pieds noirs d'Alicante de sa région, d'une rive à l'autre de la Méditerranée », et les dates, c'est 1962 et 2012. Mm-hmm. Et bon, en réalité, non, 2012, non, c'est année 2000, et 2012, c'est une date un peu indicative, mais c'est les années 2000, c'est-à-dire que ça va jusqu'au temps présent. Et ce travail s'interroge sur le devenir de cette communauté installée à Alicante à partir de 1962. Déjà, dès la fin des années 50, il y a eu les premières installations. Et depuis, une perspective d'histoire sociale, culturelle, mais aussi politique. Et deux axes forts de ma thèse sont tout d'abord la question de l'identité de cette communauté et la question de la mémoire. Et la question des identités, c'est par mon parcours personnel que vous avez présenté tout à l'heure, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Je me suis toujours posé la question de comment une communauté qui est en situation migratoire et reconstruit une identité dans un nouveau territoire et avec les référents de l'ancien territoire plus les nouveaux lieux où cette communauté se trouve, que ce soit pour la langue parlée, que ce soit pour la culture partagée, etc. Donc cette question de l'identité et de sa appartenance à un groupe migrant m'a interpellée. J'ai voulu donc aborder la question de l'installation des pieds noirs à Alicante à partir de cette approche.
D'accord, donc c'est une association finalement, c'est un mélange à un moment donné de l'histoire de cette communauté entre ce qui est laissé en arrière et ce qui se projette en avant. C'est un peu ça.
Oui. Hein ?
Eh bien, donc, alors, vous avez cité le sous-titre de votre thèse « Serie et Star », mais on y reviendra plus tard, parce que c'est à la fois une particularité de la langue espagnole, et puis en même temps, ça a une signification particulière par rapport à cette communauté pieds noirs d'Alicante. Alors, vous parliez donc de communauté pieds noirs, de la construction de cette communauté. Alors, La première chose, quelle est la particularité de cette communauté ? Comment elle se définit ?
Bon, cette communauté, si on la compare en quelque sorte avec la communauté, si est-ce qu'on peut parler des communautés, mais avec les pieds noirs installés en France, Et déjà, il y a une des axes, des hypothèses de ma recherche qui peut être mise en avant, que c'est le rapport avec les territoires. C'est-à-dire que l'installation Alicante permet à cette communauté de se construire autrement. Bien évidemment, la notion des communautés peut être mise en question. C'est une notion qui est assez complexe, mais je choisis de l'utiliser dans ma thèse et j'ai essayé de montrer en quoi, pourquoi on peut parler des communautés. Et il y a plusieurs, plusieurs choses qui peuvent, je peux peut-être revenir après.
Oui.
Mais en fait, cette communauté qui s'installe à Alicante a la particularité, tout d'abord, d'avoir eu une réception particulière. Et elle arrive en plein franquisme, bon, à la fin du franquisme, la dernière étape du franquisme, et que c'est le franquisme desarrollista, c'est une étape de croissance économique, c'est une étape où c'était un bon moment pour arriver à Alicante, une petite ville, mais qui commençait son développement autour du tourisme, de la construction, etc. Donc, ils ont été bien reçus par le régime, qui en plus considérait que c'était des personnes qui étaient peut-être favorables idéologiquement, ou au moins qui ne seraient pas dangereuses idéologiquement pour le régime. Donc ils ont été bien reçus. Ils ont été bien reçus aussi par la population locale, parce que une grande partie de ces pieds noirs étaient d'origine espagnole, et une bonne partie était d'origine alicantine. C'est-à-dire de la province, de la provincia, les départements, bon, l'équivalent de la province d'Alicante. Mmh. Et donc, ces origines ont fait que les familles se souviennent encore de parents qui étaient partis en Algérie pour des raisons économiques, des gens qui étaient là-bas. Parfois, ils savaient garder des contacts. Donc, c'est arrivé des pieds noirs en 1962 à provoquer une sorte de solidarité dans la population espagnole. Et qui a fait qu'ils se sentent bien reçus. Donc ça, c'est déjà ces deux particularités-là permettent de se construire autrement sur place, plus bien évidemment un contexte économique plus propice à l'adaptation que peut-être celui qu'ils sont retrouvés dans certaines parties de la France.
Oui, c'est une communauté qui finalement est un point de rencontre historique qui est intéressant, parce qu'il y a d'un côté l'Algérie, la France, le problème colonial, et puis la France post-coloniale, avec aussi donc, cette communauté. Et puis en face, donc, Alicante et l'Espagne, franquisme et post-franquisme. Il y a quand même là une particularité historique qui est intéressante pour l'installation de ces gens. Puis s'ajoute bien sûr ce que vous avez signalé concernant la particularité économique du juste moment, en quelque sorte, dans lequel est arrivée cette communauté. Alors comment cette communauté... On parle souvent de faire communauté. Comment elle se voit elle-même ? Alors, il y a plusieurs termes qui sont utilisés, rapatriés, exilés, migrants, réfugiés, etc. Il y a plusieurs termes. Quel est le terme qu'ils considèrent comme le plus approprié à leur situation ?
En fait, tous ces termes que vous venez de mentionner, ils sont mobilisés à un moment donné, que ce soit par un regard extérieur ou par la communauté elle-même. C'est-à-dire que quand ils viennent d'arriver à peine en 62, on parle encore des rapatriés, parce qu'ils sont encore, il y a encore un processus de rapatriement qui s'est fait vers la France, mais dont certaines personnes installées à Alicante ou qui sont au passage à Alicante vont essayer de bénéficier. Donc, on parle de rapatrie au tout début, mais bien sûr, ce mot il va être rapidement écarté parce qu'il ne correspond pas en réalité chez les personnes qui s'installent à Alicante, qui vont parler d'eux plus comme des exilés. Ils vont parler aussi de l'exode. Ils vont parler d'eux-mêmes parfois comme des migrants. Mais surtout, ils vont être définis à partir de ce que les autorités espagnoles vont dire d'eux ou que la société espagnole va dire. Donc, ils vont être considérés comme des réfugiés. Ouais. Et ils vont être considérés même comme des argelinos. Et c'est une Algérien, donc un nom qu'ils ne vont pas rejeter forcément à Alicante parce que ça renvoie à leur origine. Pour eux, c'est être Algérien, c'est bien les Européens d'Algérie qui ont vécu cet exil. Donc il y a plusieurs façons de s'appeler en fonction de la situation, des fois en fonction même des besoins,
ouais.
et en fonction de l'interlocuteur auquel on s'adresse.
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est le vocabulaire utilisé pour se définir soi-même, qui correspond à quelque chose. Et comment se considère-t-il Alors, vous parlez dans votre travail d'éventuelles singularités, exceptionnalités. Comment se situe-t-il eux par rapport à ces termes et les autres? Comment ils les situent?
Oui. Et, bon, ma thèse, elle aborde une période de temps très longue.
Oui.
Donc, il y a quand même une évolution.
Ouais.
C'est-à-dire que pendant les années 60, les années 70, au début de l'installation, on voit apparaître, j'ai pu consulter beaucoup de documents qui sont des publications, par exemple, de la presse de l'époque, où on recueille des témoignages des pieds noirs. Et dans ce type de documents, on retrouve souvent... Et qu'ils se considèrent, que les pieds noirs se considèrent eux-mêmes comme des Français.
Mmh.
Et notamment vis-à-vis de la presse française. Alors que quand on se dirige à la presse espagnole, qui est très intéressée à insister sur les caractères d'espagnols de ces gens-là, à parler d'eux comme des retournés à la patrie, etc. Donc on va insister plus sur les côtés espagnols. Mais en réalité, eux, ils se considèrent fortement comme des Français.
Mmh.
Même si des Français pas comme les autres. Et ils vont revendiquer l'héritage un peu espagnol, méditerranéen, italien, de leur culture, qui fait d'eux différents des Français en même temps. Ce n'est pas seulement une différence idéologique, aussi elle est mise en avant, mais aussi une différence culturelle qu'ils vont fortement revendiquer pour se démarquer des Français métropolitains.
Mmh.
Donc ça, c'est notamment dans les années 60-70. Et il y a aussi le regard des autorités diplomatiques, parce qu'il y a un consulat français qui ouvre ses portes à Alicante en 1967. Avant, c'était les consulats de Valence, mais qui est vite débordé par la situation. Donc, il ouvre ses portes à Alicante et on va parler tout d'abord d'eux comme des rapatriés, mais finalement, c'est une colonie française à l'étranger, ou c'est des expatriés. Donc, tout ça, c'est eux, ils vont les prendre en fonction de la situation. Mais effectivement, eux, ils se considèrent comme des Français. Mais plus le temps passe, ils utilisent de plus en plus le terme de pieds noirs.
Ouais, pour se singulariser.
Pour se singulariser.
D'accord. Et donc, écoutez, on va faire une petite pause musicale en écoutant celui dont on... Enfin, qui représente un peu quand même cette image du départ parmi les chanteurs français nés en Algérie. Enrico Macias, j'ai quitté mon pays.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent. Bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai. Une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient. La mer les a noyés dans le flot du regret.
Alors donc ces pieds noirs donc qui arrivent à Alicante, sont-ils nombreux d'abord? Parce que c'est quand même ça qui peut créer un impact dans la région d'accueil. Combien sont-ils?
Oui. Et la question des chiffres de l'installation Pieds Noirs Alicante a été très controversée pendant longtemps parce que depuis les années 60, les chiffres des 30 000 Pieds Noirs, c'est rapidement répandu. Ce chiffre a été repris par la presse, a été repris par les Pieds Noirs eux-mêmes et a circulé et a fini par devenir une réalité. Et même deux publications et de livres qui ont été publiés à l'époque et reprennent ces chiffres et on finit par les consolider. Donc on a parlé des 30 000 pieds noirs jusqu'aux années 90 où un chercheur de l'Université d'Alicante, Juan David Sempere, a fait une recherche sur des données statistiques et il n'a pas pu trouver les 30 000. Les chiffres des personnes qui étaient recensées dans les recensements des populations d'Alicante.
Il y a quand même des recensements.
Voilà. Mais il l'a fait juste sur la ville d'Alicante, mais c'était pour avoir un échantillon, un peu pour avoir une idée de ce qui pouvait être dans toute la région. Et il a trouvé autour de 3000 personnes, et un peu plus si on prenait en compte d'autres cas,
région,
si on élargissait, etc. Donc les chiffres n'ont pas pu être vérifiés par cette voie-là. Par contre, d'autres documents nous laissent penser qu'effectivement, il y a pu avoir entre 20 000 ou 30 000 pieds noirs installés dans la région d'Alicante. C'est des sources consulaires qui parlent de ces chiffres-là, qui refusaient de parler de ces chiffres-là au début, mais petit à petit, les consuls y parlent de plus en plus. Donc, moi j'ai essayé de faire aussi un analyse statistique pour pouvoir affiner les travaux de Juan David Sempere. J'ai consulté quelques archives d'autres villes de la région. Et j'ai fait aussi une analyse un peu empirique en piochant des personnes et en élaborant une base de données à partir de tous les documents que je consultais. Et ça, plus les documents consulaires, permettent d'imaginer que ce n'est pas impossible. Sauf que ce n'est pas le nombre de personnes qui sont arrivées toutes en même temps, en 1962. Il s'agit d'un processus long qui commence dès la fin des années 50, qui est traversé par plusieurs vagues, pour plusieurs allers-retours. Donc on parle d'une sorte de communauté flottante, dont ces 30 000 personnes elles n'ont pas été installées tout en même temps et de façon définitive à Alicante, mais on parle plus d'une circulation, des personnes qui vivent, même comme maintenant ça arrive encore, il y a beaucoup de retraités pieds noirs qui vivent 6 mois dans l'année à Alicante et 6 mois en France. Donc ça a été un phénomène un peu particulier dans ce sens. Donc effectivement, si on peut parler de 20 000, 30 000, ça ne veut pas dire que c'est un flux massive qui est arrivée d'un seul coup en 1962.
Ouais.
Voilà.
Oui, donc on a des gens qui finalement circulent, passent, ont peut-être débarqué là, puis sont partis s'installer ailleurs, etc.
Oui.
Donc on aura entre 20 et 30 000 personnes, ce qui correspond quand même à une communauté assez importante, au
oui.
bout du compte. Hein, même si ils ne sont pas installés en permanence dans cette ville. C'est une ville de combien, Alicante? Je n'ai aucune idée.
Et mais maintenant, c'est une ville de 350 000 habitants.
Ah oui.
Mais à l'époque, elle faisait même pas 100 000 habitants. Donc
ah oui, donc ça faisait quand même
Une quantité importante.
Ça faisait presque un tiers.
Très important.
Entre un quart et un tiers. Oui, ça
donc après, les 20 000, 30 000, ce n'est pas évalué que pour la ville. C'est plus pour toute la région. Il y a moi, j'ai repéré dans l'étude que je fais sur les recensements, c'est qu'il n'y a pas eu des grosses concentrations dans d'autres villes, mais un petit peu de gens par-ci, par-là. Mais une concentration aussi assez forte comme Alicante dans la ville de Benidorm. à Benidorm. Ah, oui. La présence pied noir a été aussi très importante et d'ailleurs très significative parce qu'elle a attiré des personnages très caractéristiques de la communauté qui ont fait des gros projets et des gros investissements dans la construction.
C'est le mur de béton de Benidorm, c'est ça ?
Eh ben pas exactement, mais c'est oui. Ils sont pas participés à la construction des gros gratte-ciel qui sont arrivés un peu après, mais ils sont participés plus au premier développement de la ville, qui étaient les premiers bâtiments un peu grands, les premières maisons, les premiers un peu de tout aussi, des commerces, etc.
D'accord.
Ils ont participé de ce décollage.
Finalement, c'est presque autant qu'Alicante.
Oui. Après, oui, c'était deux villes qui étaient en plein développement en ce moment, Benidorm, d'une façon très particulière. Donc, ils ont piloté un peu ces mouvements, et, ou au moins, ils l'ont accompagné de façon soutenue. Ouais.
Alors, ces pieds noirs, quel lien ont-ils avec le territoire, la culture locale, la politique, etc. Vous parliez juste à l'instant de la sphère économique. On va peut-être commencer par ça, d'ailleurs. Donc, apparemment, à Benidorm, ils ont pas mal investi dans le démarrage de cette station balnéaire. À Alicante, ils ont suivi le même chemin d'investissement dans l'immobilier, parce que forcément, arrivant, ils n'avaient peut-être pas de quoi se loger. Et peut-être ont-ils justement participé au développement de l'immobilier pour cette raison.
Et l'immobilier, ce n'est pas les secteurs où ils ont été les plus pressants.
Ouais.
En fait, il y a beaucoup de pieds noirs qui ont investi dans l'immobilier. Mais par rapport à d'autres activités, ça n'a pas été l'activité la plus importante. Par contre, on les souligne quand même parce qu'il y a eu des personnalités importantes comme Robert Tabarro, etc., qui ont participé dans ces activités et qui ont fait des projets qui ont été assez importants en quantité, en investissement, donc qui sont remarquables, même jusque dans les années 80, dans les années 90. Donc ça, bien sûr, il faut les prendre en compte. Mais l'activité privilégiée des pieds noirs, c'était dans le monde de la restauration, le monde des boîtes, des discothèques, des cafétérias, des restaurants, et tout ce qui était des tourismes, mais plus des services liés au tourisme. Et ils ont ouvert énormément de commerces. Mais il faut aussi faire une différence entre les personnes qui sont arrivées à Alicante avec de petites fortunes, ou au moins des quantités d'argent qui prenaient beaucoup plus de valeur en Espagne. Parce que c'était...
Oui.
Voilà. Donc, et eux, ils ont ouvert des commerces beaucoup plus importants, des cafétérias très belles, en plein centre de la ville, dans les grandes artères de la ville, l'Explanada, la Rambla. Et alors qu'il y a eu beaucoup de commerçants pieds noirs qui ont été plus humbles, qui ont fait avec des petites économies, voire avec des gros prêts. C'est-à-dire qu'ils ont reçu beaucoup de prêts de leur arrivée. Et déjà parce que les autorités locales s'étaient intéressées pour les investissements. Voilà.
Oui,
donc ils ont donné des prêts, mais c'était des prêts que des fois ils ont été... Oui, on parle de la réussite, et c'est vrai, il y a une importante réussite, mais il y a aussi beaucoup de sacrifices, parce que c'est des prêts qui ont été payés pendant des années, et avec beaucoup de difficultés, donc il n'y a pas eu que des réussites, au moins pas à court terme, et il y a eu aussi des situations très difficiles, il y a eu des petites fortunes, mais pas beaucoup.
Oui, d'accord.
Mais l'intervention des pieds noirs a quand même eu un impact très très important sur la physionomie de la ville, sur l'économie de la ville, et ça a continué pendant quelques décennies.
Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça a correspondu. Il y a une correspondance exacte entre l'ouverture au tourisme que voulu par le régime franquiste pour sortir un peu des difficultés économiques et leur arrivée. Et leur esprit peut-être d'entreprise ou la volonté en tout cas de faire quelque chose pour vivre.
Oui.
Donc ça, il y a une correspondance qui est quand même assez assez intéressant. Et donc des liens avec la politique, avec la culture, avec la politique, est-ce qu'ils sont aussi importants que ces liens avec l'économie, avec la politique?
Avec la politique, les liens, bon, c'était quand même le franquisme, même si c'était les années 60, c'était encore le franquisme, donc c'était compliqué de s'engager politiquement. Et les pieds noirs sont arrivés en Espagne avec les l'aide du gouvernement espagnol, pas toute l'aide pied-noir, mais le gouvernement espagnol a envoyé des bateaux pour transporter 2500 personnes qui étaient des Espagnols, mais il y a eu aussi des Français qui sont voyagés dans ces bateaux. Ouais. Et après, il a permis le débarquement des bateaux français qui faisaient arriver les personnes depuis l'Algérie. Et cette réception était favorable parce qu'on estimait qu'il y avait déjà que les pieds noirs étaient favorables au régime. Mmh. C'était une idée qui existait sur les Européens d'Algérie. Or, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'avertissement dès les premiers moments de la police franquiste, des autorités franquistes, de ne pas faire des politiques, qui d'ailleurs c'était une...
Oui. C'est une condition.
Une condition, et en même temps, c'est une instruction qui concernait toute la population espagnole.
Oui, c'est ça. Mais oui, c'était pas réservé.
Voilà, sauf et à certains moments, et pour certaines questions pour lesquelles le franquisme a instrumentalisé cette population, et les a utilisées, certains se sont prêtés volontiers, mais qui s'est servi de ces populations pour... Et pour son projet politique, les franquismes voulaient d'une part montrer qu'il y avait des populations qui rentraient en Espagne, l'Espagne de la paix, l'Espagne de la prospérité. Et même si certains étaient partis en Algérie en quittant l'Espagne pour des raisons voire politiques, voire économiques, mais maintenant il y avait une réconciliation, on rentrait dans la patrie qui recevait les bras ouverts. Et après, il y a eu aussi dans les cadres de certains moments historiques, comme les procès des Burgos et la loi organique qui a été votée en 1966, et où le gouvernement a voulu... Les régimes et les secteurs soutenant les régimes ont organisé des manifestations pour soutenir Franco, et les pieds noirs ont été interpellés pour participer. Donc il y a eu des secteurs des pieds noirs, notamment les anciens OAS, qui étaient encore beaucoup dans les années 60, qui ont participé activement et organisé des manifestations avec des panneaux en disant « les Français d'Alicante ».
Ah oui, d'accord.
Avec Franco, c'est-à-dire que ce n'était pas les pieds noirs, c'est les Français. Donc c'était aussi une manière de dire à la France qu'il y avait des Français ici qui soutenaient le pays, et une manière de dire à la France de ne pas se mêler dans les affaires de l'Espagne.
Voilà. Oui, c'était encore l'utilisation des mots, là. Hein.
Oui.
Oui, l'utilisation habile des mots en fonction d'eux, hein, c'est ça. Oui. Oui, parce que ce qu'il ne faut pas, oublier, c'est que quand même une partie de ces pieds noirs résidant à Oran ou en Algérie en général étaient partis au moment de la guerre civile aussi. Mm. Quand même.
Oui.
Hein? Donc, oui. Ce qui veut dire quand même que l'homogénéité n'est pas si imposante que ça dans ce groupe. Que les itinéraires de ces pieds noirs ne sont pas tous identiques, finalement. Alors, je sais que vous avez fait pas mal d'entretiens.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui ressort un petit peu de cette idée-là?
Eh bien, justement, ce qui ressort des entretiens, mais aussi d'autres documents, c'est cette hétérogénéité. Que ça soit du point de vue idéologique, parce qu'effectivement, c'est cette personne, par exemple, qui a organisé des manifestations pro-Franco, on laisse une trace dans les mémoires très forte, et on a très vite associé les pieds noirs d'Alicante avec une certaine idéologie, alors qu'il y avait quand même des postures très différentes. Et il y a peu des descendants des républicains qui sont revenus en Espagne à cette époque-là.
Ah, d'accord.
Mais il y en a quelques-uns quand même, j'en ai rencontré quelques-uns, et qui ont eu, bien évidemment, une posture contraire au régime.
Oui, je suppose.
Mais ça n'empêche qu'ils avaient quand même une vision très critique aussi de l'indépendance de l'Algérie, et une vision critique et une nostalgie aussi de l'Algérie, mm-hmm. un amour pour ce qui était l'Algérie coloniale. Donc quand même des discours qui n'en sont pas tout à fait les discours qui étaient imposés à l'époque par une gauche française, par exemple, qui tranchait beaucoup dans ce sens. Et là, c'est plus mitigé. Et aussi, il y a des personnes qui sont restées neutres à l'époque du franquisme, qui maintenant parlent d'une autre manière, qui expriment une autre vision, parce que leur vision, soit elle a évolué avec le temps, soit parce que maintenant ils peuvent l'exprimer. Et on parle de l'oppression franquiste.
Oui, oui.
On parle de les femmes, souvent, elles parlent de qu'elles ne pouvaient pas s'habiller comme en Algérie, qu'il y avait beaucoup de pression sociale. les hommes beaucoup moins, mais les femmes.
Oui,
les femmes parlent beaucoup de ça, et c'est quand même un signe de qu'il y avait des choses, que tout n'était pas aussi parfait, idéalisé comme on peut avoir l'impression en regardant les discours collectifs. Voilà. Alors que les discours individuels, ça permet de voir cette hétérogénéité qui est aussi du point de vue socio-économique, du point de vue culturel. Mm-hmm. C'est des parcours très divers, des personnes avec des mentalités diverses qui partagent des choses et que ça nous permet de construire quelque chose de collectif. Bien sûr, il y a des choses qu'on trouve un peu partout, il y a des choses qui sont partagées. Mais c'est très hétérogène comme population.
Oui, oui. C'est-à-dire que cette idée de... Hein, je sais que vous en parlez dans votre thèse, du roman Pied Noir, mettrait en avant une communauté très soudée. C'est soudé, mais peut-être dans la périphérie, pas forcément dans le cœur de chaque personnalité.
Mais exactement. Ouais, il y a différents degrés d'adhésion.
Oui, c'est ça.
On s'identifie à certaines choses, pas à d'autres. Mais par contre, ce qui a existé à Alicante, même si à Alicante, il y a eu beaucoup d'aspérités dans cette communauté, il n'y a pas eu du tout une cohésion totale. Il y a eu beaucoup de conflits, d'ailleurs, qui sont arrivés à des points extrêmes, parfois, comme on voit dans les documents, sur les documents. Mais en même temps, c'est une communauté qui a eu l'avantage d'être réunie dans un territoire assez restreint, qui a permis de créer une sorte de quotidien et des partages liés à une école qu'ils ont créée, liés aux associations. Et ça a permis de se construire aussi autrement, d'avoir plus l'impression d'être une communauté. Même si on n'était pas d'accord, même si on se disputait, même si certaines personnes restaient à l'écart du groupe, mais on s'est croisés, on s'est voyés, on savait que tel commerce appartenait à tel, on savait qu'il y avait un journal Pied Noir qui circulait, on pouvait le voir, même si on ne faisait pas partie de la communauté comme telle.
Ouais.
Donc il y a cet élément-là, ça permet une certaine cohésion. Et les témoignages permettent de voir qu'il y a des éléments qui sont récurrents chez tous les profils, que c'est déjà une certaine vision de l'Algérie, assez idéalisée, l'amour pour l'Algérie. Et la douleur de la perte de la terre, même s'il y a des fois avec des regards critiques par rapport à la colonisation, des regards critiques, mais avec une tristesse, avec une sensation quand même d'injustice, de que les choses n'ont pas été faites, même chez les descendants des républicains qui pouvaient avoir une vision plus militante.
Voilà. D'ailleurs, on comprend pourquoi ils sont pas revenus en masse à Alicante. Hein. C'est un peu normal. Alors cette intégration dans le territoire, cette communauté, elle s'exprime aussi par des personnalités intégrées. Enfin, il me semble que il y a un chanteur qui s'appelle Pedro de Linares. Qui est donc d'origine pied noir, je suppose, sa famille, et qui a donc écrit et chanté une chanson qui a eu, je crois, beaucoup de succès dans la communauté, qui s'appelle Ay Oran di mi vida, et on va l'écouter.
Siempre recuerdo de ti, cada día y cada noche. Recuerdo de mi niñez, en mi memoria me lleva allí. Ay, Orán, ay, Orán.
Finalement, ce qui fait l'union, l'unité de ce groupe, de cette communauté, c'est le territoire.
En partie, oui. Oui.
En partie, oui.
Ouais.
C'est ça. Et après, les usages, le quotidien, etc. C'est ça qui fait leur unité et leur façon d'être pieds-noirs à Alicante, qui est particulière.
Oui.
Et donc, cette façon, vous l'illustrez dans le titre de votre thèse, le sous-titre de votre thèse qu'on a évoqué tout à l'heure, et qui mérite explication, parce que c'est à la fois une particularité du vocabulaire espagnol, et en même temps, ça représente quelque chose d'important pour cette communauté, le ser y estar.
Oui.
Alors, expliquez-nous, moi, je ne suis pas du tout espagnol, je ne connais pas.
Oui,
donc, ser, vous allez nous expliquer ça.
Ser y estar sont deux verbes qui, en réalité, correspondent au verbe être en français, mais avec les deux sens du verbe. Ser renvoie à l'essence de quelque chose, alors que estar renvoie à quelque chose de plus contingent et à quelque chose des passagers, et comme par exemple l'endroit où on se trouve.
D'accord.
Ouais. Donc, avec l'usage de ces deux verbes, ser y estar, et j'ai voulu faire référence aux deux manières des pieds noirs d'être dans le monde, les deux manières que j'ai voulu étudier. La première, c'est une supposée identité, et la deuxième, une façon d'être dans l'espace. Et bien sûr, comme vous avez dit tout à l'heure, et avec les territoires au centre, comment est lieu duquel émane un peu l'identité, et vice-versa, c'est-à-dire l'identité qui forge la façon d'être dans les territoires. Donc, ces deux verbes qui sont en dialogue permanent et qui permettent de parler de cette façon d'être dans l'espace et de comment là découle une identité communautaire ou plusieurs identités, je dirais plutôt identitaire. Plusieurs identités. Identité.
Ouais. Ouais, donc, ces pieds noirs, donc, qui sont là, ils sont donc dans une interaction et permanente. Ils se croisent continuellement. Et donc, c'est vrai que c'est ça qui finit par créer communauté, par faire communauté. Et donc, cette communauté, elle agit donc en fonction de leur des conditions historiques et puis des conditions d'installation. C'est bien ce que vous dites dans la différence entre ser et estar. Le ser, si j'ai bien compris, c'est donc le fait qu'ils soient là, qui de toute façon ils occupent le terrain. Et l'estar, c'est dans leur vie au quotidien qui peut varier, etc. C'est ça.
Oui, et je voulais rajouter à cette dichotomie ser et estar, j'ai rajouté dans mon analyse le verbe et faire, le verbe avoir, c'est-à-dire le verbe agir, notamment.
Ouais.
C'est-à-dire la capacité d'agency, d'agir sur le territoire, c'est-à-dire que ce n'est pas une communauté passive ou qui est soumise au contexte, de son exil, du contexte de réception, mais c'est comme un groupe qui va agir d'une manière déterminée. Et c'est une manière qui mène justement à ce développement économique, parce que les développements économiques et l'ouverture des commerces des pieds noirs, qui est des commerces des boulangeries, des pâtisseries, des bars, des cafétérias, etc., n'est pas un hasard. Il y a quand même des réseaux qui se mettent en place. Les gens sont en contact les uns avec les autres. Et il y a de l'entraide. Il y a des personnes qui s'associent pour ouvrir des commerces. Donc, il y a tout un quelque chose qui s'est créé. Et il y a aussi des leaders. Il y a des personnes qui assument un leadership dans la colonie, dans les groupes, et qui vont permettre de mettre en place des projets plus structurés, comme notamment la nouvelle école française qui est créée par les pieds noirs en 1962 et qui est devenue aujourd'hui un lycée français d'Alicante, qui était le pôle de la culture française dans la ville. Et ça a été un lieu pieds noirs. Les associations, tout ce qu'ils ont mis en place, ça fait quand même qu'il y a eu une certaine structuration. Et même si pas tout le monde a adhéré à cette communauté, mais c'était forcément... On intégrait les groupes d'une façon ou d'une autre, soit parce qu'on allait acheter dans la boulangerie la mouna, ouais, soit parce qu'on croisait les gens, soit aussi parce qu'on participait activement. Donc effectivement, il y a les ser, il y a les estar et il y a l'agir.
Et l'agir.
L'hacer.
Ouais, ouais. Et donc ce qui est quand même extraordinaire, c'est que près de 60 ans après, On a toujours ces liens dans cette communauté.
Ces liens ?
Ce lien, c'est cette communauté liée, malgré ces différences qu'on a signalées tout à l'heure. La communauté existe toujours, 60 ans après. C'est étonnant quand même.
Oui, elle existe toujours. Et elle est beaucoup plus réduite parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bon, il y a certaines personnes qui sont parties, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées, beaucoup les enfants sont devenus espagnols, même si tout en étant espagnol, ils gardent des liens, pour la plupart, des liens très très forts avec la France, avec la culture des parents. Donc il y a quand même une transmission qui a été faite, qui s'est transformée, mais qui a été faite. Il y a des contacts avec la France qui restent, il y a des souvenirs de l'Algérie un peu transmis aux enfants, donc la nourriture, etc. Tout ça, ça reste. La communauté maintenant est plus formée par des personnes plus âgées qui se réunissent, mais qui continuent quand même à donner un peu de vie
aux souvenirs.
Oui, voilà. Mais c'est plus, aujourd'hui, on est plus devant une communauté de mémoire qui est dans la commémoration, qui est dans les souvenirs, qui essaye de laisser des traces. Et comme, par exemple, les deux statues que les Pionnards ont offert à la ville d'Alicante en 2014 et qui ont été posées en pleine explanada dans un lieu emblématique de la ville. D'ailleurs, la même avenue dans laquelle ils avaient ouvert tous les commerces en 62 et qui était connue un peu comme l'avenue des Pieds-Noirs. Mmh. Donc, c'est quand même beau hommage des Pieds-Noirs à la ville et de la ville aux Pieds-Noirs, donc, qui montre qu'ils sont encore... qu'ils sont encore là, mais qui sont plus dans une démarche mémorielle.
Et qu'est-ce qu'elle représente, ces statues ?
Cette statue représente deux personnages en fer forgé. Il y en a un qui arrive avec sa valise et l'autre qui la reçoit les bras ouverts. Donc c'est les Pieds Noirs qui débarquent à Alicante et l'Alicantin qui la reçoit comme frère.
Avec... Ah d'accord, ok. Voilà. Oui. Et sur le plan idéologique, politique, finalement, avec le temps, est-ce que ça se dissout un peu dans l'environnement d'Alicante, des Alicantins?
Oui, mais en même temps, on peut voir quand même certains comportements attribués aux Pieds Noirs, mais qui sont plus soit en petit groupe, soit à titre individuel. On n'est plus dans une démarche communautaire comme on était à l'époque où ils ont publié les journaux, les Courriers du Soleil, qui proposaient quand même un rassemblement autour d'une idéologie, d'un certain nombre de valeurs pour toute la communauté. Mmh. Ce qui a provoqué aussi que les journaux disparaissent parce qu'il n'y a pas tout le monde qui adhérait.
Voilà,
donc ça a été suivi par certaines personnes, mais d'autres soit n'étaient pas intéressés, soit n'étaient pas d'accord.
Ouais.
Donc effectivement, ça n'a pas marché. Mais après, on voit à partir des années 80 quand même que la mouvance se fait plus dans le sens de la politique française. On ne peut pas savoir ce qu'ils votent en Espagne et on ne peut pas savoir ce qu'ils votent les enfants en Espagne, les petits-enfants qui ont acquis la nationalité française, mais on peut voir dans les documents consulaires qu'il y a des personnes qui participent dans des mouvements d'extrême gauche en France, mais à titre individuel, ça reste des petits groupes, mais ça confirme en quelque sorte la tendance, l'idée du vote pionnier d'Alicante, de la présence forte d'une extrême droite Alicante, toujours annoncée, toujours à ramener à des proportions raisonnables.
Ouais. Ah oui, d'accord, ça s'est réduit, ça, finalement. Donc c'est une manifestation quand même d'intégration.
Oui.
Plus ou moins intégration à la vie politique. Oui, parce que ça, là, on a des éléments. Les bureaux de vote d'Alicante et les bureaux de vote consulaires à Alicante, on a des résultats. On voit bien ce que ça peut donner, quoi.
Oui.
Vous les avez consultés, non ?
Et j'ai consulté, j'ai pas encore exploité. ça sera pour une autre occasion.
Ouais.
Et par contre, là, dernièrement, on peut maintenant les Pieds Noirs votent la circonscription d'Alicante parce que le consulat a disparu. À passer à Madrid. Donc maintenant, c'est un peu plus compliqué de trouver. Mais jusqu'à il y a quelques années, on trouvait encore des documents. Et j'ai quelques documents sur les années 80-90 où on peut voir quand même quelques tendances. Mais effectivement, ça ne correspond quand même à un pourcentage assez petit de la totalité du groupe.
Ouais.
C'est représentatif jusqu'à un certain point.
Ouais. Oui, oui.
Mais enfin, bon.
Mais il y a peut-être une évolution là qui serait peut-être intéressante. On va encore faire une petite pause musicale avec une autre chanteuse française qui a des liens, puisqu'elle n'est pas née en Algérie, mais elle est née juste au retour de sa mère en France, quelques semaines, je crois, après. C'est Liane Folly qui a écrit une chanson qui s'appelle « Déracinée », bon, qui correspond quand même au sentiment de cette communauté.
Entre deux soleils, entre deux continents, glissait sous le ciel un grand bateau tout blanc. Pendant que ma mère pleurait dans son ventre, moi j'attendais de naître pour l'hiver, enfin peut-être. Mon passé, je ne le connais pas. D'où je viens, où je vais, je ne le sais pas. Dans mon cœur résonne encore cette terre, se parle fort comme unique héritage. Déraciné, sans un décor, sans un repère, je suis déraciné entre les noms. Depuis que je suis née, une petite voix étrange, venue d'ailleurs, cadeau des anges, me parle d'Alger. Et l'histoire a balayé tous les remords. Il a fallu être de plus en plus fort. Reconstruire sur la poussière un avenir sans colère. Nous demander d'être grand, ça prend du temps. Déraciné, sans un décor, sans un repère, je vis déraciné entre les non-dits, les mystères, depuis que je suis né. Petite voix étrange, venue d'ailleurs, cadeau des anges, me parle d'Alger. Déracinée, une inconnue, une étrangère, je vis déracinée, comme exilée de l'univers depuis que je suis née. Des mensonges que l'on occulte et font de nous de faux adultes. Apprendre à s'aimer, continuer de croire en l'homme, grâce ou à cause, en somme, de ses blessures et par ses déchirures, on est déraciné. Sans un décor, sans un repère, je suis déraciné entre les mystère depuis que je suis née. Une petite voix étrange, venue d'ailleurs, cadeau des anges, me parle d'Alger. Je suis déracinée.
Le dernier aspect que je voudrais que nous développions ensemble avec vous, Mariana Dominguez, c'est la comparaison entre ce groupe Alicantin et les rapatriés installés en métropole, et puis un peu leur relation. Alors, est-ce que c'est la même chose d'être rapatrié, réfugié, pied noir, enfin, à Alicante ou pied noir en France? Parce que je pense que vous avez un peu regardé cette question.
Oui, tout à fait. Et en fait, les travaux qui ont été sur les pieds noirs en France. Moi, j'ai fait aussi quelques entretiens, mais je ne suis pas allée très loin dans cette étude comparative. Mais les travaux qui ont été faits à ce sujet montrent que les pieds noirs qui se sont installés en France ont eu en grande partie une déception d'arriver en France. C'était pas le pays qu'ils s'attendaient. Et beaucoup, ils sont vraiment sentis de la haine, du rejet envers la France. Et où se sont sentis pas compris, se sont sentis mal intégrés, maltraités, etc. Ce qui n'a pas été le cas à Alicante.
Oui, déjà, c'est une grosse différence.
Voilà. Dans les deux cas, il y a une partie, bien sûr, de vérité. Mais il y a aussi une partie d'imaginaire, d'idéalisation d'Alicante et de diabolisation un peu de la France. Mais en effet, c'est une réalité qui a eu un fort impact sur une communauté ou l'autre. Mmh. Et la communauté d'Alicante, donc, s'est construite d'une forme un peu plus apaisée. Et même s'il y a eu des conflits, des revendications, surtout au début, par exemple envers les consulats français, etc., un éloignement. La forte présence de l'OAS a provoqué, bien sûr, un certain nombre de préoccupations et des conflits.
Eh oui.
Mais avec le temps, la communauté s'est apaisée. Mmh. Et la construction identitaire a été plus, disons, dans une sorte de liberté d'être des Français, comme ils voulaient, d'être des pieds noirs à leur manière. Alors qu'en France, ils se sentaient plus... conditionnés par le regard de l'autre qu'ils sentaient négatif. Mmh. Et en Espagne était positif. Donc forcément, on ne se construit pas de la même manière dans un pays que dans l'autre. Les pieds noirs d'Alicante, bien que très français, bien que très fiers de leur culture et essayant de la préserver, ils se sont quand même intégrés à Alicante. Ils ont fini par s'intégrer, ils ont intégré leurs enfants sans regret.
Mmh.
Je peux, par exemple, pour donner un exemple, j'ai interviewé beaucoup de pieds noirs d'Alicante, donc qui sont fiers de l'intégration de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Pour eux, c'est une réussite, c'est un baume pour la déchirure, c'est une sorte de réparation d'avoir enraciné les enfants alors qu'eux, ils avaient été déracinés.
Oui, comme disait Liane Foy. Ouais.
Voilà.
Ouais, ça tombait bien. Ouais.
Alors qu'en France, j'ai eu des témoignages où les personnes, peut-être, qui étaient un peu déçues de que ces enfants, ces petits-enfants soient devenus des Français. Donc il y a quand même là un rapport différent avec le territoire d'accueil et qui a un impact sur l'intégration, mmh. forcément.
Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est d'ailleurs curieux que l'intégration se soit mieux passée en territoire étranger plutôt qu'en territoire français. C'est curieux, ouais, c'est une réalité, mmh. c'est sûr.
En même temps, je pense que pour les pieds noirs, la position des étrangers en Espagne, et dans un pays où d'ailleurs ils s'étaient bien reçus, était plus confortable que celle des rapatriés.
C'était plus favorable, oui, mmh. certainement. Oui, certainement, parce qu'il y avait la distance par rapport à l'histoire récente.
Oui.
L'Espagne n'était pour rien dans l'histoire de décolonisation française, alors que la population française, je ne veux pas dire qu'il y était pour quelque chose, mais enfin, en tout cas, les pieds noirs pouvaient penser qu'il y avait une relation étroite entre la population et ce qui leur était arrivé.
Mm.
C'est ça, en fait. Eh bien, écoutez, voilà, on va bientôt arriver au terme de notre émission. Encore une petite question. Est-ce que les relations ont été maintenues entre la communauté d'Alicante et les communautés installées en France? Oui, les relations se sont poursuivies. Ça ne s'est pas estompé.
Non, et d'ailleurs, je pense que c'est plus maintenant qu'avant. Avant, les relations, il y avait énormément de relations parce qu'il y avait énormément de mobilité,
mm-hmm.
mais c'était des relations plus personnelles. C'était des relations, soit des relations économiques, soit des relations familiales, soit mm-hmm. des relations avec des amis, etc. Et parce que les familles étaient éclatées, donc les gens, certains vivaient à Alicante, d'autres en France, dans mm-hmm. plusieurs endroits, et ça, les gens circulaient, et il y avait bien sûr, il y avait des contacts. Mais maintenant, il y a une vraie démarche depuis quelques années, des contacts entre associations de la France et d'Espagne.
Ah oui.
Et ce qui était, à l'époque, c'était rare. Il y a eu, à l'époque, dans les années 70, un contact entre le cercle algérianiste et français avec l'Alicante, mais qui a été très fugace, ça n'a pas forcément donné quelque chose. Mmh. Et là, il y a un intérêt mutuel, il y a des gens qui viennent des associations visiter les associations d'Alicante, les statuts d'Alicante, donc il y a une sorte de réactivation qui s'est fait aussi facilitée, bien sûr, par les réseaux sociaux et par les facilités des transports, etc.
Bien sûr. Alors, pour terminer, vous avez vos perspectives de recherche?
Oui.
Qu'est-ce que c'est là? Vous êtes d'ailleurs déjà mis, je suppose, au travail sur d'autres pistes.
Mais bien sûr.
Pour approfondir quelques pistes.
Et bien, sur la question des pieds noirs d'Alicante. Et il y a quelques questions que j'aurais aimé traiter et que je ne l'ai pas fait pour une question de temps ou pour une question de pas trop chercher le travail qui était déjà assez conséquent. Et par exemple. Et j'aurais aimé approfondir un peu plus dans les témoignages. J'ai un projet de patrimonialisation des fonds. Et pour cela, je voudrais enrichir les fonds encore avec,
d'autres
entretiens. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore prêtes à parler, qui ont un certain âge et qu'il faut peut-être le faire vite. Et puis, en ce qui concerne la recherche, j'aurais aimé approfondir, et je pense que je le ferai, sur les rapports et politiques de certaines personnalités, de certains groupes de la colonie, les réseaux politiques qui ont été créés avec les milieux franquistes. Okay. Bon, j'ai déjà un peu abordé cette question dans ma thèse, mais j'aimerais y approfondir et voir comment ça a eu une influence forte sur l'intégration économique des Pieds Noirs et sur la réussite de certains leaders et qui s'est étendue à l'époque de la transition et de la démocratie dans des nouveaux réseaux d'une nouvelle droite démocratique et qui ont poursuivi ces échanges-là. Puis aussi les réseaux économiques et les échanges économiques qui ont été créés entre la France et l'Espagne autour de la présence si importante des pieds noirs. C'est pas négligeable parce que cette présence-là a permis quand même de développer une présence française économique dans la région et des échanges importants et ça reste à explorer. Pareil pour les échanges culturels et les rayonnements culturels de la France en Alicante, comment à travers les pieds noirs ça a pu se faire ou pas. Et voilà, approfondir notamment sur ce point-là. Et après, il y a bien d'autres choses, mais je ne dirai pas tout.
D'accord, ben on va en garder un peu pour une prochaine émission.
Voilà.
Merci beaucoup, Mariana Dominguez.
Et ben, merci.
Voilà, merci de votre passage dans notre émission. Alors, je rappelle aux auditeurs qui peuvent nous écouter jeudi à 12h30 et le samedi à 15h à 19h en alternance sur 88.1. Et sur notre site, vous pouvez également vous intéresser à l'activité de cette émission sur notre page Facebook Marie Nostrum, une émission de Radio Zinzinex, où sont annoncées les émissions et puis où je donne également quelques informations supplémentaires sur nos invités. Et je rappelle que nous sommes aussi diffusés sur une radio toulousaine qui s'appelle Radio Octopus, qui est une radio internet qui est installée à Rabastens, à côté de Toulouse, et sur laquelle, dans les programmes, nous passons donc le lundi de 18 à 19h et le jeudi de 10h à 11h. Voilà, merci à nos auditeurs, à bientôt.
Rosario, con tu diente de marfil, para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina, hecha con nardo y gamín, rezaré pa' que me ampare aquella que está en Sahel. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Un recuerdo y una pena, y
rosario de marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Yo soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho un estandarte por la alegría de España. Con mi patria y con mi novia y mi bien de San Gil y mi rosario de cuenta, yo me quisiera morir.